Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. À l'époque, nos voitures, nos aspirateurs, nos machines à laver le linge duraient 20 ans et désormais c'est terminé. On parle même du syndrome de la machine à laver en panne. Selon l'ONG Les Amis de la Terre, la durée de vie moyenne des appareils électriques a été divisée par 2 en 25 ans. On nous explique que les ressources de notre planète sont limitées, mais paradoxalement, on nous pousse à consommer davantage. Comment faire face à l'obsolescence programmée? Comment lutter contre ces industriels qui réduisent la durabilité des produits, qui veulent nous faire acheter toujours plus grâce à un marketing de plus en plus offensif? Comment ne pas être influencé par les early adopters? Eh bien là encore, la jeunesse française est très active et elle s'organise pour dire stop à l'obsolescence programmée.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Laetitia Vasseur.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice de l'association HOP, HALT, à l'obsolescence programmée, qui est née en 2015 suite à la loi qui pénalise l'obsolescence programmée. Quelle est la définition exacte de l'obsolescence programmée?
Alors, l'obsolescence programmée, ça signifie, selon la loi, les stratégies industrielles qui visent à raccourcir délibérément la durée de vie d'un produit pour en renouveler l'achat. C'est-à-dire, ça va être tout ce qui va être des produits finalement prêts à jeter, dans l'intention de faire toujours racheter plus. Après, nous, à HOP, on a une vision plus globale. On peut parler même d'obsolescence accélérée ou prématurée en général, c'est-à-dire tous les produits qui ne sont pas conçus pour durer.
Volontairement, ou des produits qu'on ne peut pas réparer parce que les différents composants sont soudés entre eux. Donc, c'est tout ça que vous repérez, en fait.
Voilà, c'est tout ce gaspillage organisé, quelque part.
Parce qu'il y a différentes formes d'obsolescence. Il y a du design qui peut être obsolète, ça peut être de la technique, de la technologie.
Oui, selon nous, il y a trois types d'obsolescence. L'obsolescence technique, par exemple, une vitre qui va se casser trop facilement ou une batterie qui ne va pas pouvoir être démontable facilement. Ensuite, on va avoir l'obsolescence logicielle. Là, ça va être plutôt les mises à jour, les softwares qui vont être concernés. Et enfin, l'obsolescence esthétique, où là, on va parler plutôt des designs qui ne vont pas être intemporels ou des marketing très agressifs. Donc là, c'est tous les effets de mode accélérés qu'on appelle sous l'obsolescence esthétique.
Pourquoi vous avez créé HOP, cette association? C'était pour regrouper les consommateurs, l'union fait la force. Vous avez senti que voilà, aujourd'hui, il fallait absolument se regrouper pour faire face à ces industriels qui abusent peut-être de plus en plus de cette obsolescence programmée.
Oui, exactement. En 2015, on a eu une première victoire avec la reconnaissance d'un délit d'obsolescence programmée. Mais j'ai considéré que c'est un outil qui resterait certainement lettre morte si on n'avait pas une mobilisation très forte des citoyens, ce qui n'existait pas forcément avant. Et donc, c'était vraiment l'idée, et c'est toujours l'idée, de se rassembler, de se fédérer pour pouvoir montrer que oui, les citoyens veulent des produits qui durent et qui soient réparables.
Vous avez le sentiment qu'il y a une vraie prise de conscience en France auprès du grand public?
Oui, je pense que clairement, il y a vraiment un mouvement de fond. Aujourd'hui, les gens ont de plus en plus conscience de ce phénomène et puis surtout de tout le gaspillage autour de cette surconsommation de produits qui ne durent pas.
Et parce donc, qu'on est également responsable, c'est nous qui les achetons, ces produits.
Oui, bien sûr, la responsabilité est complètement partagée. Il y a bien sûr le fabricant qui conçoit ses produits, mais le consommateur a un grand pouvoir et c'est bien aussi le rôle de l'association, c'est de faire prendre conscience à tout à chacun du pouvoir qu'il a entre les mains et plutôt entre sa carte de crédit. Et c'est pourquoi aussi il faut se fédérer pour être plus fort ensemble, à la fois dans des modes de consommation alternatifs et à la fois dans une stratégie d'influence des lois et des industriels.
Alors tout à l'heure, vous parliez de petites victoires. Le 5 janvier dernier, le parquet de Paris a ouvert une enquête visant Apple et des soupçons d'obsolescence programmée suite à une plainte déposée par votre association. Ça en est où?
Oui, nous avons déposé deux plaintes à ce jour, une contre les imprimantes et
Epson également, ouais.
Epson, et l'autre contre Apple dans le cadre du ralentissement des téléphones suite à une mise à jour. Donc, suite à ces plaintes, le procureur de la République a décidé d'ouvrir l'enquête parce qu'il les a considérées en effet tout à fait sérieuses. Et aujourd'hui, on est dans le processus classique, c'est-à-dire que c'est la DGCCRF, une sorte de police des consommateurs, qui est chargée d'enquêter sur ces deux affaires.
Heureusement que vous êtes là quand même. Hein. Heureusement que toutes ces associations commencent à pointer du doigt toutes ces actions qui sont quand même malhonnêtes et irresponsables vis-à-vis de l'environnement. Parce qu'effectivement, on parlait de Apple à l'instant. Beaucoup d'utilisateurs ont vu leur batterie ralentir suite à une mise à jour. Toutes ces actions comme ça qu'on ne peut pas maîtriser, on ne comprend pas. Puis tout d'un coup, le bien, eh ben, il faut le changer, quoi. Il faut consommer à nouveau.
Oui, c'est le problème, et surtout, finalement, au-delà de la frustration et qui est bien normale des consommateurs, il y a vraiment un gros problème écologique. On ne peut pas continuer à faire des produits qui ne sont pas conçus pour durer, surtout quand ils contiennent énormément de terres rares et qui sont à l'origine de grosses quantités de pollution et de déchets.
La face cachée des métaux rares, c'est vrai qu'on en parle pas encore assez, mais il faut les exploiter aussi, et ça pollue, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Quelles sont les autres actions que vous menez, mis à part donc les attaques en justice envers les industriels, comment est-ce qu'on sensibilise le grand public ?
Oui, on a plusieurs axes finalement. Ce qu'on cherche, c'est à la fois sensibiliser et surtout informer le grand public à la fois des enjeux écologiques, sociaux, de l'obsolescence programmée ou accélérée en général, et bien sûr des solutions, parce qu'on veut montrer qu'on peut faire autrement, on peut s'en prémunir, les entreprises aussi peuvent faire autrement, et donc on essaye vraiment de promouvoir les solutions. On fait aussi un gros travail d'influence des lois. En ce moment, c'est la feuille de route économie circulaire du gouvernement, et le gouvernement Brune Poirson, en l'occurrence, est très attentive à nos recommandations, ce qui va vraiment permettre de protéger les gens et d'inciter les entreprises à faire mieux. Et puis, on a une stratégie aussi d'influence des industriels, soit par des actions en justice, soit par la promotion, par exemple, des solutions, encore une fois, grâce à un club d'entreprise qui, finalement, fédère un écosystème entrepreneurial de personnes qui vraiment sont engagées et ont envie de montrer qu'il y a des alternatives.
Il faudrait intervenir aussi dans les écoles, finalement. Est-ce qu'il ne faut pas sensibiliser le plus tôt possible le public à tous ces enjeux, tous ces sujets ?
Oui, je pense qu'à partir du collège, lycée, les jeunes sont assez... sensibles aux produits, et au téléphone, aux collants, à la durée de vie de nos appareils. Donc, en effet, on a des programmes de sensibilisation ces jeunes âges. C'est vrai que la sensibilisation est à tout niveau, et il ne faut jamais oublier le pouvoir du consommateur d'aller vers des alternatives, de s'informer, de réparer, de réemployer, d'acheter d'occasion pour allonger la durée de vie des produits.
En tout cas, votre site est extrêmement bien fait. Hein. C'est facile de vous expliquer comment est-ce qu'on peut rejoindre la communauté Hop. Vous en êtes à combien de membres aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on considère que notre communauté au sens large est de à peu près 30 000 personnes. Et c'est très important, à la fois sur notre site internet ou sur Facebook, le site haltobsolescence.org, parce que c'est cette communauté qui nous permet d'avoir du poids dans nos stratégies d'influence des lois et des industriels.
Et je me rappelle que pendant la présidentielle, vous étiez parti à la rencontre de tous les candidats et ils étaient tous en faveur de l'affichage de la durée de vie des produits. Où est-ce que ça en est, ça ?
Oui, c'est une mesure qu'on avait recommandée dans le cadre des élections présidentielles, qui a été reprise par plusieurs candidats, et dont celui qui a gagné au final, Emmanuel Macron. Donc c'est une promesse de campagne. Et c'est une promesse qui a été reprise dans la feuille de route économie circulaire du gouvernement, l'affichage de la durabilité des produits. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voudrait, c'est que quand on puisse aller en magasin, on puisse savoir quel produit va être le plus durable par rapport à un autre en fonction de critères objectifs comme la réparabilité, sa robustesse, sa durabilité. Et comme ça, on a d'autant plus de pouvoir et de choix pour aller vers des produits qui vont vraiment être durables et réparables.
Ce sont des sujets qui vous ont toujours intéressé, Laetitia Vasseur, l'économie circulaire, l'environnement, ou bien il y a eu un déclic ?
Oui, c'est des sujets qui me passionnent parce qu'ils sont vraiment au croisement à la fois d'enjeux écologiques et sociaux et économiques. Et on a vraiment là beaucoup de choses à faire, et c'est très inspirant. Et en même temps, le déclic à la fois est venu de deux choses pour créer cette association. D'abord en 2012 avec le documentaire « Prêt à jeter » que je vous invite à voir, qui est très bien fait pour alerter sur ce sujet. Et puis par ailleurs, c'est vrai que moi j'avais voyagé pendant plusieurs mois, ce qui m'avait permis de constater qu'il y avait d'autres modes de consommation et des modes de vie alternatifs et inspirants. Et c'est suite à ça que j'ai vraiment eu envie de me mobiliser sur l'engagement citoyen et associatif.
Quels sont les pays qui s'en sortent le mieux ? Vous donneriez les meilleures notes à quel pays ?
Je pense que c'est difficile à dire parce que il n'y a pas forcément un pays qui s'en tire mieux que d'autres. Parfois, c'est inspirant de se tourner vers les pays qui sont dits en voie de développement parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, au contraire, en fait, sur l'économie et tout ce qu'on appelle l'économie collaborative, le prêt entre voisins, etc. C'est des choses qui sont finalement de bon sens et qui se font de manière tout à fait naturelle dans plein de pays du Sud. Et je crois que plutôt que de faire des révolutions conceptuelles, on a beaucoup à apprendre de ces pays-là.
Ça fait plaisir, toutes ces initiatives positives. Merci beaucoup, Laetitia Vasseur. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Hop, halte à l'obsolescence programmée.
Au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France. La France qui innove et la French Tech.
Stop à l'obsolescence programmée. Qui sont ces entrepreneurs qui œuvrent dans ce sens? On en parle dans un instant.
Sud Radio, c'est ça la France.
Aujourd'hui, dans C'est ça la France, nous mettons en lumière la jeunesse française qui dit stop à l'obsolescence programmée en créant des associations ou misant sur le reconditionné. Bonjour Vianney, vote.
Bonjour.
Pas le chanteur, hein, fais attention. Vous êtes cofondateur de la start-up Back Market, le spécialiste de la vente d'appareils électriques et électroniques reconditionnés. Donc ça a été créé assez récemment, hein, cette start-up, en 2014. Alors expliquez-nous ce qu'est Back Market.
Back Market, c'est tout simplement une plateforme qui permet aux consommateurs d'avoir accès au catalogue de plus de 300 reconditionneurs aujourd'hui, qui sont en fait des spécialistes, des experts qui vont réparer et remettre à neuf des produits électriques ou électroniques qui ont déjà vécu. Et nous, en fait, on offre aux consommateurs la possibilité d'adopter du coup des milliers de produits électriques ou électroniques reconditionnés à neuf.
C'est ça, vous ne les reconditionnez pas vous-même, vous travaillez avec des reconditionneurs. Alors justement, expliquez-nous bien la différence entre l'occasion et le reconditionné. Parce qu'il y a beaucoup de sites de revente d'occasion aujourd'hui, hein.
Oui, c'est vrai. La différence, en fait, c'est le passage dans les mains d'experts. C'est le fait que, avant que le produit qui a déjà vécu arrive dans vos mains, eh ben, il y a quelqu'un dont c'est le métier qui va pouvoir le vérifier, s'assurer que tout fonctionne bien, le réparer si c'est nécessaire, et puis vous le revendre avec un prix qui est généralement aligné sur le marché de l'occasion, mais une garantie qui est 6 mois minimum sur la plateforme. Et donc ça vous permet, en fait, par rapport au marché de l'occasion, d'avoir un peu plus confiance dans la qualité des produits que vous allez utiliser.
Quelle est la différence entre des sites de revente d'occasion classique et le reconditionné?
La différence, c'est le passage dans les mains de l'expert. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit d'occasion, vous allez l'acheter directement en particulier. Dans le cas d'un produit reconditionné, vous allez avoir un expert qui va d'abord vérifier le produit, le réparer si c'est nécessaire, et puis vous le remettre à neuf, et tout ça avec une garantie. Donc vous avez une garantie de 6 mois minimum sur la plateforme qui vous permet du coup d'avoir un peu plus confiance dans la qualité du produit que vous allez utiliser.
Parce que finalement, quand on achète une voiture d'occasion chez un garagiste, c'est du reconditionné?
Finalement, oui, sur le secteur de la voiture, mais c'est précisément la figure du garagiste qui est importante. Vous ne l'achetez pas directement à un particulier, et du coup en ayant
un professionnel
particulier, mais vous l'achetez à un professionnel dont c'est le métier, en fait.
Donc en fait, vous, c'est un peu le même principe, sauf que vous l'étendez sur toute une gamme de produits, hein, de la raclette jusqu'au téléphone portable,
en passant par la machine à laver. Télévision, exactement, c'est l'idée.
Donc vous avez repéré en fait cette appétence pour les produits high-tech, et vous avez dit bah, autant qu'on achète un produit qui a déjà une première vie.
Ouais, c'est l'idée. En fait, le reconditionner, ça permet déjà de régler un problème fondamental dans la vie des consos, qui est que ces produits sont généralement très chers. Si vous prenez le cas d'un smartphone, les derniers sont à plus de 1000 euros. Et du coup, en fait, à travers le reconditionné, ça vous permet d'avoir des prix qui sont généralement 50 jusqu'à 70% moins chers que le neuf. Et en même temps, le consommateur, il a quand même besoin d'être rassuré, surtout sur ces produits électroniques où il y a de la batterie, où il y a du tactile, où il y a de la connectique. Et donc, du coup, le fait de passer dans les mains d'un expert et d'être remis à neuf est garanti. Ça permet finalement d'avoir à la fois le bon rapport prix et qualité dans la vie du conso.
En revanche, est-ce que vous arrivez à capter les early adopters qui aiment bien avoir les derniers designs? Là, c'est un peu plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué. On les
c'est
laisse
pas votre
faire la
cible.
Queue à l'Apple Store.
C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent chercher justement les consommateurs sur votre site? Qu'est-ce qu'on peut trouver?
Alors, on peut trouver, on a aujourd'hui plus de 300 partenaires reconditionneurs branchés à la plateforme. On trouve beaucoup de smartphones, puisque c'est quand même le gros du marché, c'est souvent ce que les gens viennent chercher. Mais on a décidé assez vite d'ouvrir aux catégories high-tech et électroménager. en branchant des marchands comme Vendido, par exemple, qui est une filiale du groupe Boulanger, et qui, du coup, va vous permettre aussi de trouver des frigos, des machines à laver, des appareils à raclette, comme vous le disiez tout à l'heure, même si c'est de moins en moins de saison. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir, nous, une offre très large sur plein de produits disponibles, et puis, du coup, aussi d'avoir beaucoup de reconditionneurs sur une seule référence, parce que ça permet aussi de faire jouer, justement, une sorte de compétition entre les reconditionneurs sur le rapport qualité-prix, justement.
Mais le produit star reste le smartphone, j'imagine. Le taux de renouvellement doit être de combien ? D'ailleurs, oui. On a une idée en France ?
Alors, le taux de renouvellement, il est entre 18 et 24 mois, selon les études, pour les smartphones. Donc, c'est vrai que ça va très, très vite. C'est des produits du quotidien. Les gens aiment bien les changer. Vous parliez d'obsolescence programmée. Nous, je pense qu'on adresse beaucoup le sujet d'obsolescence programmée psychologique. C'est-à-dire, c'est beaucoup de gens qui ont envie de passer au modèle d'après. Et comme je vous le disais, le modèle... les iPhones notamment et les smartphones en règle générale sont des appareils chers, donc le reconditionner a toute sa place pour ce type de produit-là.
Alors Back Market est désormais disponible également en Belgique, en Allemagne, oui. En Espagne, en Italie.
Ouais, exactement. C'est vrai qu'on a très vite ouvert le concept à l'international. En fait, ce modèle de place de marché qui connecte des reconditionneurs aux consommateurs juste sur le sujet du reconditionné, il n'existe pas ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de l'exporter très vite, puisque ça marche bien en France. On s'est dit.
C'est-à-dire que vous travaillez avec des reconditionneurs dans tous ces pays ?
Oui, c'est vrai.
C'est comme des franchises ? Enfin, expliquez-nous.
En fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on part avec une offre un peu européenne, c'est-à-dire qu'un reconditionneur français est déjà capable, en fait, de livrer des produits en Espagne ou en Allemagne, par exemple. Mais on va aussi brancher des reconditionneurs locaux. Donc, on travaille de plus en plus avec des reconditionneurs allemands.
Il y a des communautés, du coup, en Belgique, en Allemagne, d'accord.
Exactement. Et du coup, il y a un bouche à oreille qui fait « Back Market a ouvert ses portes dans le pays » et du coup, les reconditionneurs nous y rejoignent.
Alors, combien de conditionneurs en tout aujourd'hui travaillent pour Back Market, les pays européens en Europe ?
On en a près de 300 aujourd'hui.
Donc, 300, donc la France plus l'Europe, d'une manière générale.
Oui, mais la grosse majorité, a un peu plus de 80%, réside en France. Ouais.
Et donc, on peut dire que Back Market s'inscrit dans une logique d'économie circulaire.
Oui, parce qu'en fait, on va du coup permettre aux gens de revendre leur téléphone. Ça, on le propose aussi sur la plateforme avec un service de reprise. Et en fait, ces téléphones vont avoir une seconde vie. Donc, et j'espère en plus une troisième, voire une quatrième. Donc, c'est vraiment l'idée d'apporter de la circularité. Dans un modèle où il n'y en avait pas beaucoup en fait sur le marché électronique, c'était très linéaire. Vous achetez, vous consommez, puis vous jetez. Et c'est assez nouveau en fait que le réemploi justement permette de donner une deuxième, troisième vie à ces produits-là.
Vous avez prévu de partir à la conquête des pays anglo-saxons, d'aller en Angleterre, aux États-Unis ?
On est à ce qu'on appelle en période de soft launch aux US, c'est-à-dire qu'on teste un peu le marché, on va voir les reconditionneurs qui sont là-bas, mais pour le moment, on ne sort pas encore les trompettes en clamant cocorico aux US.
Ça existe d'ailleurs là-bas, aux États-Unis ? Il y a l'équivalent de Back Market ou vous sentez que là aussi, le terrain est vierge ?
Non, le terrain est vierge sur notre modèle de place de marché dédiée au reconditionné, mais par contre le sujet du reconditionné et l'existence de reconditionneurs, enfin il y en a déjà aux US aujourd'hui. Après le modèle de Back Market n'existe pas, c'est pour ça que on se tâte du coup à y aller de manière un peu ferme.
Je rappelle que vous êtes cofondateur de la startup Back Market, et bien on lui souhaite un plein développement à cette belle entreprise. Merci beaucoup,
Merci
Vianney.
Beaucoup.
Au revoir, Vianney Vaute. Au revoir.
Merci.
Sud Radio, c'est ça la France. Le tourisme des savoir-faire avec Thibaut le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors je crois qu'à travers vos visites, vous vous êtes intéressé à une nouvelle tendance.
Eh oui, c'est dans l'air du temps et ça permet de lutter de manière originale contre l'obsolescence programmée. Ça s'appelle l'upcycling ou plutôt le surcyclage, car dans l'émission on préfère quand même les mots en français.
Oui, je vous le confirme.
Alors je vous explique, c'est une nouvelle façon de recycler car on ne répare pas les vieux objets, mais on les transforme pour en créer de nouveaux. Et pour ça, on repense totalement leur usage et leur design. Mais au final, le nouvel objet est encore mieux que l'ancien. Et surtout, pas besoin de passer par la phase recyclage, qui utilise de l'énergie et ne conserve que la matière. C'est un peu l'idée d'une obsolescence reprogrammée. On reprogramme l'objet comme on reprogramme un ordinateur.
En fait, je vois derrière tout ça un peu la culture du do-it-yourself. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour qu'on comprenne mieux le concept.
C'est exactement ça. On bricole, on améliore les objets dont on ne se sert plus. Par exemple, un grille-pain en fin de vie va être customisé pour pouvoir imprimer sur des toasts. Un vieux mixeur va être transformé en générateur de briquettes qu'on pourra utiliser pour assembler des meubles. Bref, les exemples ne manquent pas. En fait, le surcyclage n'a
pas de limite
que l'imagination.
C'est ça. Alors, où est-ce qu'on peut voir tout ça ?
Alors, par exemple, vous pouvez vous rendre dans l'une des trois fabriques à neuf. Les fabriques à neuf, ce sont des ressourceries qui collectionnent des objets pour leur offrir une seconde vie. Elles sont présentes dans l'Essonne, à Corbeil-Essonne, à Ressorangis et à Montgeron. Alors là-bas, vous verrez, on réutilise des éclairages industriels pour fabriquer des lampes de maison design. Une pile de livres est transformée en comptoir de bar.
C'est génial.
C'est génial. Et une ligne de joueurs de baby-foot devient un porte-manteau. Alors ces objets sont en vente dans leur boutique et je vous promets que ça vaut vraiment le coup d'y aller pour découvrir leur créativité. Ils réparent également les vieux ordinateurs pour les revendre à petit prix. Et enfin, ils proposent même des ateliers de couture pour vous apprendre à fabriquer des sacs à partir de t-shirts.
C'est même participatif, quand on peut y aller, on apprend des choses.
On apprend des choses et des ateliers, voilà.
Il y a beaucoup de lieux comme ça en France, Thibault ?
Oui, ça explose. Le nombre de ressourceries, de recycleries est en augmentation constante. Mais tout autour, il y a également plein de petites structures qui surfent sur la tendance. Et ça permet de donner un second souffle à l'artisanat. Bah, tenez, par exemple, j'ai trouvé une association sur la Côte d'Azur. C'est Résine Esterelle Azur. Ils ont un atelier qu'on peut visiter à Cannes. Ils ont une idée que je trouve assez géniale. Ils récupèrent des bâches événementielles. Vous voyez ces grandes bâches en PVC
En toile de jute.
Voilà, en toile de jute qui servent de support de communication. Eh bien, ce sont des bâches qui servent très peu de temps, mais grâce à l'association, elles sont nettoyées et découpées, et après, elles sont utilisées dans leur atelier pour fabriquer des sacs, des tabliers, des couvertures d'agenda, des sacoches pour vélo, des trousses. Et même les chutes sont utilisées pour la confection de coussins.
Ouais, voilà, c'est l'économie circulaire.
L'économie circulaire. Bah, c'est une très belle initiative, d'autant plus que l'atelier accueille une quinzaine de personnes en réinsertion. Bah voilà, n'hésitez pas à aller les voir, c'est du côté de Cannes, ça s'appelle Résine Esterelle Azur.
En tout cas, je sens que ça vous a inspiré, ce lieu. Ouais. Vous allez vous y mettre chez
vous ? Ça y est, allez, je vais mettre à surcycler et à créer des nouveaux objets.
Merci beaucoup Thibault.
Sud Radio, c'est ça la France.
L'émission touche à sa fin, merci à vous de nous être fidèles et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Tout de suite, c'est Invino.